le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sans public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume, consacré à l'actualité littéraire avec la navigatrice, ma chère Olivia de Lamberterie, duel le vieux loup de mer Michel Crépu de la Nouvelle Revue française, Jean-Louis Hésine du Chasse-Marée, qui est un peu la NRF de l'océan, et le surfeur Frédéric Becbédé de la Côte Basque et du Figaro Magazine. On parle ce soir des nouveaux romans de Dominique Fernandez, François Chandernagor, Benoît Dutertre, Sophie Oksanen et Jonathan Coe. Dans le courrier de la semaine, Hélène réplique à Jean-Louis Hésine, non, non, Delphine de Vigan n'a pas écrit page 184. Mélanie se retenait d'hurler, comme vous l'avez prétendu, mais bien se retenait de hurler. Et contrairement à vous, j'aime l'écriture de Delphine de Vigan, dont la sensibilité me touche toujours beaucoup. Au contraire, pour Karima Héritier, le roman de Delphine de Vigan est d'un ennui mortel, preuve qu'un sujet de société, si important soit-il, ne fait pas un bon roman. Hélène Mercier-Testard de Gilly-sur-Isère s'en prend pour sa part aux trois critiques mâles qui n'ont pas vu combien le roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, était une œuvre tout à fait intéressante dénonçant l'exploitation éhontée dont certains enfants sont victimes. Et notre auditrice admire le courage d'Olivia de Lamberterie qui a fort à faire avec vous. Je vous en prie, monsieur Garcin, calmez les ardeurs de ces augustes mâles. Au contraire, Laurence, qui habite la Sarthe, n'a pas apprécié qu'Olivia traite ses trois collègues, Hésine, Becbédé et Vivian, dont les critiques étaient pertinentes, de, je cite, « mâle blanc qui se positionne en surplomb ». C'est la tendance actuelle de dénigrer les hommes. Et je pense que les femmes dont je suis, nous dit Laurence, s'honoreraient d'être plus intelligentes. Pour Guy Orjambide de Pau, en traitant ses confrères de mâle blanc méprisant, Olivia leur déniait toute compétence professionnelle pour juger le travail, en l'occurrence, de Leïla Slimani, écrivain franco-marocaine. Exclusion et réduction sont les deux mamelles de la cancel culture. Comment, ajoute enfin Yvonne Muller, avez-vous pu laisser passer les propos d'Olivia reprochant aux critiques présents d'avoir un problème avec les écrivaines à succès qu'ils toiseraient du haut de leur statut de mâle blanc? Que vient faire le mâle blanc dans cette émission littéraire? Si demain il faut être une femme ou appartenir à une catégorie précise pour émettre une critique sur le livre d'une écrivaine, je cesserai de vous écouter. Je suis une femme libre, sensible à la cause des femmes, mais cette phrase dessert votre émission. Je voulais quand même, avant de te donner la parole, Olivia, rappeler que dans cette émission, en règle générale, il y a plus de, effectivement, de critiques, je dis bien en livre, hein, plus de critiques masculins que féminins.
D'abord, je ne dénigre pas les hommes. En général, je les adore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais réellement scandalisée et indignée de certains propos de mes camarades bien-aimés. Et cette formule était une sorte de moquerie et de provocation.
Affectueux.
Mais la prochaine fois, je les traiterai tout simplement de vieux ringards. Et on verra bien
de vieux
ce
mal
que
ringard.
Ça donne dans le voilà. courrier.
Tant que tu ne dis pas ça à l'animateur, tout va bien. Rien à ajouter, les mâles, non?
Non, mais elle était à court d'arguments, elle ne savait plus quoi dire, donc elle a dit ça. Elle a dépassé sa pensée.
On commence oui. avec...
Attention, mâle.
Non. On commence avec Billy Wilder et moi. C'est le nouveau roman du Britannique Jonathan Coe, traduit chez Gallimard par Marguerite Capelle, alors que reparaît en folio le roman anti-Brexit, Le cœur de l'Angleterre, dont on avait parlé au masque, dans mon souvenir, c'était même à Nancy. Et cette fois, Jonathan Coe nous emmène, après un détour par Hollywood, sur le tournage en Grèce et en 1977 de Fedora, l'avant-dernier film de Billy Wilder avec Marthe Keller, dont le compagnon est alors un certain Al Pacino, et William Holden, le cinéaste de Sunset Boulevard, dont je rappelle qu'il était d'une famille juive autrichienne et qu'il a fui le nazisme pour les États-Unis, est alors rejeté par les studios qui lui préfèrent les jeunes barbus, comme ils les appellent, Spielberg et Coppola. Il a l'impression de vivre son champ du cygne. Et il se confie à la jeune grecque Callista, qui est inventée, hein, elle, et qui lui sert d'interprète et d'assistante. Et c'est elle qui, devenue à Londres compositrice de musique de film, raconte en flashback sa rencontre avec Billy Wilder. Je rappelle également que Jonathan Coe a été critique de cinéma, pas au Masque et la Plume, mais dans la presse britannique, et le biographe, excellent biographe, d'Humphrey Bogart. Quant à Fedora, pour ceux que ça intéresserait, qui est un très beau film crépusculaire, il est disponible et il a été réédité chez Carlotta. Frédéric ?
C'est éblouissant, j'ai été charmé de bout en bout, je trouve que c'est un livre merveilleux, crépusculaire lui aussi, comme le film de Billy Wilder. C'est un roman sur la mort du cinéma. On a parlé ici du livre d'Aurélien Bélanger sur la mort de la télévision, c'est un peu similaire, mais avec, je dirais, Jonathan Coe beaucoup plus en forme quand il fait un pas de côté. Ce livre-là est beaucoup moins ambitieux que le précédent, et en même temps...
C'était bien le cœur de l'Angleterre. Hein,
oui, mais je préfère celui-là. Moi, je préfère celui-là parce que, justement, j'aime les pas de côté, j'aime les petits livres entre deux, où on est, voilà, on veut pas résumer toute la planète. Là, c'est vraiment, c'est un livre avec une chute géniale, d'ailleurs, comme, ouais. D'ailleurs, c'est le minimum quand on parle de Billy Wilder, puisque c'était le génie de la chute.
Le génie de la chute, absolument.
Les dialogues sont géniaux, il y a une idée de mettre un scénario à un moment dans le film, dans le livre, il y a un scénario imaginaire qui est brillantissime. Le personnage de la narratrice est très très attachant.
Callista. Oui.
Elle fait penser un peu à Nick Carraway dans Gatsby le Magnifique, c'est-à-dire le témoin oui. Un peu extérieur et innocent, un peu nunuche, mais qui en même temps voit tout, dit tout, comprend tout. Elle cite, elle apprend par cœur un dictionnaire du cinéma et elle récite le dictionnaire du cinéma devant tous les grands cinéastes qu'elle croise et il la regarde comme si c'était une débile. Il y a beaucoup, tellement de choses à dire.
Il parle des origines tragiques de Billy Wilder avec beaucoup de finesse. C'est jamais appuyé, c'est jamais lourd.
Et ça, c'est ce qu'il y a évidemment de plus émouvant en dehors de la fin du cinéma intelligent et raffiné. Remplacé par des films avec des requins et des proutes, comme il l'explique. Ouais. Et en dehors de ça, évidemment, c'est sur la tragédie européenne de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, la douleur centrale de toute l'œuvre de Billy Wilder, non dite.
Il n'est pas le seul cinéaste, d'ailleurs, à être passé de cette Europe en feu au grand studio d'Hollywood. Olivia ?
C'est intéressant, oui, Frédéric, tu parles d'un pas de côté. Mais moi, je me demande, si nous n'avions pas su que c'était un livre de Jonathan Coe, est-ce qu'on n'aurait retrouvé l'auteur tellement,
c'est
je trouve,
c'est pas sûr.
Que ce livre est très différent par sa forme, mais également par son ton. Donc moi, je suis un petit peu plus en retrait par rapport au personnage de la jeune grecque que j'ai trouvé un peu fade. Et je trouve qu'on retrouve pas tout à fait
elle
dans ce personnage.
Elle est trop dans l'admiration pour Billy Wilder.
Voilà,
hein.
Elle est trop dans l'admiration. Ses histoires d'amour avec ce garçon sur le tournage ne sont pas très intéressantes. Je trouve qu'on retrouve l'ironie et le piquant de Jonathan Coe au travers du portrait de Billy Wilder. Il y a une scène extraordinaire, c'est la scène au restaurant où il y a cette jeune fille qui le rencontre, et on a un homme désespéré.
Ça, c'est Hollywood, hein.
Exactement, Billy Wilder, qui dit qu'il aimerait continuer à faire des films subtils et beaux et romantiques, mais que maintenant, les téléspectateurs veulent deux choses. Il dit l'histoire a même pas commencé, que la fille est déjà à genoux entre les jambes d'un homme, et il dit, est-ce qu'on peut demander ça à Garbo? Ben non, on peut pas demander, ni à Ingrid Bergman. Et après, il y a une page vraiment savoureuse, où il dit les gens n'aiment plus que les requins, voilà. Puisqu'il y a le succès des Dents de la Mer. Et Billy Wilder raconte qu'il a voulu faire une blague à un grand patron d'Universal. Il lui a dit, je vais faire les Dents de la Mer à Venise. Et là, le type d'Universal a dit, c'est une excellente idée. Donc vraiment, je trouve que ce passage-là, tout d'un coup, est très Jonathan Coe. Et puis après, il y a cette partie...
T'aimes moins la Grèce, non ?
Bah, la Grèce, j'aime la Grèce par essence.
Non, mais je parlais dans
c'est
joli.
Mais je trouve que oui, le personnage est...
C'est joli ce tournage qui est impossible, qui se passe mal.
Oui, avec Al Pacino.
C'est
mais
drôle.
Je trouve qu'Al Pacino, qui veut manger absolument des hamburgers
avec Monsieur Bart
dans tous les pays du monde. Ce qui m'a fendu le cœur et ce qui fait que je recommande ce livre à tout le monde, c'est cet homme qui n'a pas de nouvelles de sa mère et qui va regarder des documentaires sur les camps de concentration pendant des heures et des heures et des morts et des corps décharnés. pour tenter de retrouver la silhouette de sa mère. Oui, et oui, pour oui. ça, je lui pardonne et, quelques faveurs.
Et revoyez, phrase, si vous ne l'avez pas vu, Fedora, hein, avec cette phrase Jean-Louis.
Si ça n'est pas un holocauste, alors dites-moi où est ma mère. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré. J'ai été surpris d'adorer aussi, parce que, a priori, je ne suis pas forcément un client pour Jonathan Coe, dont je me rappelle qu'on a évoqué pas mal de livres. Et puis, en plus, je ne suis pas cinéphile vraiment, mais ce qui m'a rassuré tout de suite dans ce livre, c'est que la narratrice est encore plus nulle que moi en matière de cinéma, au départ.
Elle est toute jeune, hein. C'est une, elle est une béjaune. Hein.
Et moi, j'avais une culture de Billy Wilder, à peu près la sienne. Je connaissais juste un truc en plus, parce qu'on voit Billy Wilder est quelqu'un qui avait un humour fantastique. Et c'est une anecdote qu'on voit dans les anthologies de l'esprit. Il avait énormément d'esprit. Et un jour qu'il était de passage à Paris, on trouve d'ailleurs l'anecdote dans le livre, sa femme, depuis les États-Unis, lui demande de bien vouloir trouver un bidet et de le faire expédier aux États-Unis. Parce que le bidet, à cette époque, c'était un mobilier très français. Oui. C'est une spécificité française. Comme il y en a d'autres. Il cherche le bidet, il ne trouve pas.
On peut dire que le bidet, c'est la France.
Oui, c'est le bidet, c'est la France, voilà. Donc, il ne trouve pas le bidet et il télégraphie à sa femme. Génial. Impossible de trouver bidet, stop. Suggère de faire le poirier sous la douche. Moi, je connaissais Billy Wilder, à part pour certains Lemshow et Boulevard du Crépuscule, pour cette anecdote qu'on retrouve d'ailleurs. Mais c'est fantastique et j'ai adoré le travail qu'a fait. Parce qu'on le devine, hein, il y a un travail incroyable. Quelque chose qui m'a beaucoup étonné de sa part, il est probablement le premier écrivain anglais qui fasse un éloge du bris de mots qui est absolument formidable.
Oui.
Je pense même qu'il est le seul lettré anglais à savoir distinguer le bris de mots du Coulommiers, ce qui nous est quand même détaillé.
Je suis sûr que Julian Barnes doit savoir la différence.
Peut-être Julian Barnes, oui, vraiment. Et vous avez raison, la scène du restaurant est absolument incroyable.
Hein.
Il y en a d'ailleurs une autre scène de restaurant à Munich.
Oui, qui est bien aussi.
Qui est formidable aussi, parce que là, c'est là où Billy part dans le récit de sa vie. C'est fantastique.
Michel ?
Vraiment.
Alors, il y a une souveraineté du récit dans ce livre qui est tout à fait incroyable. Si on compare avec les dizaines de livres que nous avons à lire par ailleurs, c'est ce qui m'a le plus d'abord stupéfié, parce que je pensais que Billy Wilder, en fait, était mort depuis longtemps. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire, il est mort en 2002, c'est-à-dire il y a un instant. Enfin, j'avais pas cette conscience. Pour moi, Wilder, c'était vraiment...
Oui, c'était le cinéma du siècle d'avant.
Oui, c'était Orson Welles, je sais pas. Et puis des anecdotes qu'on connaît de lui, enfin, à Hollywood, des formules très drôles... Sur ceux qui ont les optimistes et les pessimistes qui n'ont pas voulu soit aller aux États-Unis quand les nazis étaient en Europe, soit rester en Europe. C'est d'une cruauté, d'une ironie extraordinaire.
La phrase, c'est les pessimistes sont allés à Hollywood et les optimistes sont allés à Auschwitz.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc j'ai mis un certain temps à me faire à l'idée que en fait c'était encore maintenant.
C'était un presque contemporain.
Presque quasi contemporain et alors avec des moments de un peu de lassitude pour moi de lecteur qui ça m'a pas toujours accroché absolument, mais en réalité ça fait partie de la souveraineté du récit aussi ça. C'est une espèce de liberté et d'indifférence totale à l'égard d'une prétendue nécessité thématique ou quelque chose de cet ordre qui enferme le roman dans un propos, dans un sujet. Là, on est dans une liberté complète, une espèce d'aisance indifférente qui est très excitante.
Franchement, lisez Billy Wilder et moi, c'est signé Jonathan Coe, c'est chez Gallimard. Revoyez Fedora, réédité chez Carlotta. Et j'aimerais bien qu'un éditeur français édite ou réédite, je ne sais pas si ça a été fait, le Humphrey Bogart, la bio d'Humphrey Bogart, d'autant qu'on l'a pour l'instant, est en train de sortir en coffret les films de Bogart d'avant, le Code Hens, qui sont formidables. Donc bref, il y a plein d'actualités littéraires et aussi pour les cinéphiles autour de ce Billy Wilder de Jonathan Coe. L'homme de trop, très différent chez Grasset, un roman de Dominique Fernandez, sous-titré « L'arc-en-ciel interdit », premier volume d'un diptyque, et c'est 40 ans après le pendant de « L'étoile rose », ce grand roman de Fernandez sur l'homosexualité. Bah, entre-temps, il y a eu le Pax et l'adoption du mariage pour tous, et Fernandez, entre-temps, est également entré à l'Académie française. Le héros, c'est Lucas Faber, qui est gay, photographe, qui a 64 ans. Dans sa jeunesse, il se sentait un paria. Aujourd'hui, il se réjouit du progrès des mœurs et constate que les jeunes homosexuels sont libérés tout en regrettant, c'est Fernandez qui parle, hein, et qui écrit plutôt, qu'ils aient perdu leur force de contestation et qu'ils se soient embourgeoisés. Dans ce roman qui court des années 50 jusqu'à la libération des mœurs des années 70, Lucas se demande si le droit à la différence n'est pas devenu un devoir de ressemblance. D'ailleurs, le sous-titre du second volume à paraître dans, exactement dans un an, est d'ailleurs assez éloquent, « La liberté trahie ». Alors, je parlais de roman, je suis un peu injuste, parce que si je suis un lecteur honnête, c'est aussi un peu un essai, c'est aussi un pamphlet. Enfin, ça emprunte à différents genres. Jean-Louis.
Oui, enfin, c'est sous-titré, enfin, c'est roman, mais bon, on est passé clairement d'une littérature de témoignage avec l'Étoile Rose à quelque chose de carrément encyclopédique, quoi. C'est tout sur le comment, du pourquoi de l'homosexualité, avec des listes, des analyses, des modes d'emploi, des sous-catégories, enfin tout, quoi. C'est le toutologue de la chose. Et ça va même très très loin, parce que lorsque, par exemple, vous allez au Grand Hôtel et que vous prenez votre thé dans un service
de Cabourg, hein, de Cabourg.
Oui, Cabourg. Je dis Cabourg, mais on pourrait.
Non, mais tu dis le Grand Hôtel, donc.
Ah ben oui. Peut-être que Cabourg, je suis d'accord, Balbec. Et que le maître d'hôtel vous apporte votre thé dans un service en porcelaine, évidemment. Il faut savoir que le mot porcelaine évoque pour l'auteur quelque chose qui est étymologiquement le sexe des truies et la souillarde des cochons, quoi. Porcelaine. Ça va donc quand même très très loin. Bonjour, la Madeleine de Proust, toi. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu obsessionnel.
Ah oui,
sans aller jusqu'à parler de prosélytisme.
Ah oui, tu trouves.
Mais qui peut provoquer un effet paradoxal, parce que Dominique Fernandez le reconnaît lui-même à la toute fin de son livre, page 292, on n'a jamais eu autant de curiosité pour les hétéros. Et c'est ça qui est assez amusant. Donc je me dis que peut-être qu'il y a une époque nouvelle.
Ce que tu ne dis pas, c'est quand même que ce livre se veut, et surtout avec le second à venir dans un an, un peu le film des 30-40 dernières années et de l'évolution de ce...
Oui. Alors, cela dit,
De la considération de l'homosexualité.
Oui. Alors cela dit, sur la problématique qui fait tout le fond de l'ouvrage, idéologiquement, je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on a fait la société, les pouvoirs, les politiques ont fait le contraire exactement de ce qu'il aurait fallu faire. Quand tu veux faire reconnaître les différences, il faut d'abord les reconnaître avant de les faire accepter. Et là, on les a abolis par décret, par des lois, je pense qu'il a, sur le mariage pour tous, je partage complètement son analyse. Alors
tu vas avoir du courrier. Michel.
Ouais, je crois que si j'étais homo, je serais très d'accord avec ce livre, en fait. J'aime bien le ton de ce livre et en même temps, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, qui résume au fond assez bien, je trouve, l'état d'esprit de Fernandez aujourd'hui, en tout cas. Les gays ont gagné le droit à l'indifférence.
C'est quelque chose qu'il répète d'ailleurs de livre en livre. Hein.
Ça, oui, c'est son, comme j'ai pas lu tous les livres de Dominique Fernandez, j'ai découvert ça et je trouve ça très bien.
Oui, mais sauf que...
Je remarque que tu n'es pas très bavard sur ce livre. Hein.
mais je trouve ça vraiment, vraiment bien.
Frédéric.
En fait.
C'est plus que le droit à l'indifférence. On sent l'académicien qui a envie de rester rebelle. C'est ça qui me plaît. Au fond, c'est une lignée...
Enfin, rebelle, je dirais même paria.
Oui, parce que... Il remonte toute l'histoire de la littérature homosexuelle, donc évidemment c'est Oscar Wilde, le procès d'Oscar Wilde, mais aussi Jean Genet, plus récemment Guillaume Dustan, des écrivains comme ça, qui au fond n'étaient pas du tout embourgeoisés. C'est pas inintéressant de dire pourquoi est-ce que, à force de lutter contre l'homophobie, on en est arrivé à devenir plus normé que les hétéros, ou aussi normé qu'eux, ou vouloir correspondre à une norme, alors que, il le dit à un moment, c'était refuser la norme, l'homosexualité. Alors, évidemment, en n'étant pas moi non plus...
Et c'était refuser l'embourgeoisement, où il a le sentiment qu'ils sont tombés. Enfin, il y a aussi
ce jugement social. Il y a une renonciation à la liberté. Et il dit assez bien, nos mœurs doivent rester spéciales pour que notre regard reste critique. Il fait l'éloge de Gide. Gide, retour de l'URSS, qui ose critiquer le totalitarisme et aussi le colonialisme au Congo. C'est-à-dire que c'était pas seulement, en fait, revendiquer sa différence ou son orientation sexuelle, c'était aussi combattre toutes les oppressions. Donc, je trouve que sur le plan théorique, Moi aussi, j'adhère totalement. Je trouve ça un discours courageux et neuf.
Oui.
Après, la théorie dans les romans, c'est comme disait Proust, oui. C'est comme un cadeau sur lequel on aurait laissé
le prix. Parce que là, pour
l'instant,
vous en parlez plus comme d'un essai que comme d'un roman.
Oui, hein, c'est un peu le problème du livre.
Il y a un personnage,
qui
est du cas.
Toute la première partie est très romanesque.
Je n'y crois pas.
Mais je trouve que, là, si tu veux, c'est peut-être ça qui est embarrassant, c'est que c'est un peu comme quand on lit Le Banquet de Platon. Ça discute, mais on ne parle pas beaucoup.
Ce qui t'arrive souvent, d'ailleurs, toi.
Voilà, on ne parle pas beaucoup du menu, on parle plus de choses philosophiques. Quoi.
Moi, ça m'a fait penser parfois au chemin de la liberté de Sartre. Mm-hmm. C'est-à-dire là aussi où Sartre voulait illustrer sa théorie.
C'est donc bien pas un roman.
Existentialiste, etc. Et donc, on abandonnait très vite les intrigues entre les personnages.
Mais enfin, c'est bien écrit quand même, parce qu'il y a une autre phrase que je voudrais juste citer. Je n'ai pas envie de profiter des avantages pour lesquels je milite. C'est quand même, c'est très sartrien. Oui, oui.
Alors, que pense de l'homme de Troie, Olivia ?
Les critiques bien aimées, avant d'en arriver à cette partie théorique, il y a 400 pages. Hein.
Oui.
Peut-être vous ont échappé.
Et 400 sont à venir.
Alors, il y a une première partie, moi, que j'ai adorée. Moi, plus que la partie théorique, moi, j'ai aimé la partie romanesque ou récit sur le refuge. Je trouve que la manière qu'il a de dépeindre cet endroit où échouent des jeunes garçons et parfois des jeunes filles qui sont repoussées, rejetées, vilipendées, humiliées par leur famille, est très belle. Il y a des portraits, on se croirait dans un film de Chabrol, de ces familles, notamment de celle du jeune Sacha, dont il va tomber amoureux, monsieur et madame Charbonnier, si mon souvenir est bon, qui sont très avares. Alors, ils reçoivent le dimanche uniquement des gens qui leur sont utiles, avec des vers lilliputiens pour leur donner très peu à boire et des toutes petites portions. Un père qui n'a jamais ri, seulement à la scène de la biscotte de la cage aux folles, et qui va être absolument immonde avec son fils. Et je trouve que toute cette partie-là, qui va se finir par un drame.
Qui est effectivement la plus romanesque du livre.
C'est la plus romanesque.
Livre,
il y a même des scènes, d'ailleurs lui-même le souligne. Il dit c'est très mélodramatique. Oui, il y a des scènes, tout d'un coup on a l'impression qu'on est dans un film. Après, alors pour reprendre une expression très lettrée du professeur Crépu, il y a quelques moments de lassitude du lecteur. Si je puis me permettre, en tous les cas de la lectrice que je suis, pour reprendre mon ami Ézine, il est toutologue toutologue du cochon. Vous avez quand même très grand dégagement sur le cochon qui semble vous avoir échappé, je me suis un tout petit peu...
C'est un essai dans l'essai.
Lassé.
Je trouve que tu cites beaucoup Ézine et Crépu et pas assez Bec Bédé.
Et après Bec Bédé. Bec Bédé triomphant. Il y a cette partie très intéressante. Alors moi j'avais oublié que le Pax... Alors malheureusement il ne donne pas les noms. Je trouve qu'il aurait dû donner les noms. Que les députés socialistes, qui avaient évidemment dit qu'ils allaient voter la loi, ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur d'être vilipendés dans leur circonscription. Il y a un ministre qui avait beaucoup, beaucoup soutenu la loi, qui, au moment de voter, est parti passer un coup de téléphone à Sarajevo. Il a le sens du détail.
Ah oui.
Et puis après, il y a cette grande interrogation qui rejoint celle de Benoît Duteurtre.
Oui, on va en parler tout de suite.
Est-ce qu'il vaut mieux être dans la norme ou être différent ?
Voilà.
C'est l'homme de trop, c'est Dominique Fernandez, et c'est un roman qui paraît chez Grasset. Justement, on y vient avec Ma vie extraordinaire, il faut prendre le titre au deuxième degré. Hein. C'est un récit autobiographique, mais qu'il s'obstine à appeler roman. D'ailleurs, à l'intérieur du livre, Benoît Duteurtre cite ses propres livres en catégorie. Il y a les romans, les textes, les essais. Bon, bref. C'est donc un livre de Benoît Duteurtre, et c'est chez Gallimard, au prétexte qu'il est entré en soixantaine, que la décrépitude menace, et que sa libido fléchit, très important, dit-il. Duteurtre fait donc le bilan de sa vie. Il rappelle, non sans une certaine fierté, qu'il a été adoubé par quelques écrivains notables, Beckett, Kundera, Houellebecq, et qu'il est l'arrière-petit-fils du président René Coty, que nos auditeurs ont oublié, mais enfin, c'était un président de la République.
Ça, il l'avait déjà dit. Hein, dans les
bien sûr,
dans
mais nous, on le sait.
Toujours, oui.
Et il dresse une fois de plus, je dis bien une fois de plus, le cadastre de ses lieux familiers, parce que dans tous ses romans précédents, ils y étaient déjà, c'est-à-dire Étretat, Le Havre, patrie de René Petit. Et puis les Vosges, où il a eu une enfance enchantée grâce à un oncle et son épouse, et où il vit désormais une partie de l'année avec son compagnon qui s'appelle Jean-Sébastien, enfin qui se prénomme Jean-Sébastien, car après avoir eu, ça il le rappelle dans son livre, une jeunesse dissolue, où il a abusé beaucoup de la drogue, Duterte prend goût à ce qu'il appelle, là aussi je le cite, même si j'en souris un tout petit peu, la vie paysanne. Et il écrit « Désormais, ma seule jauge de l'univers, c'est mon bien-être. » Un bien-être où, on le sait, la musique occupe une place centrale. Au passage, il déclare justement, comme Fernandez dans son livre, refuser d'appartenir à la communauté LGBT. Et il écrit même que l'hétérosexualité est la norme, alors que l'homosexualité est un écart, ce qui m'a quand même, ce qui montre à quel point il est différent des autres. Olivia?
Alors, je pense que le pacte romanesque de ce livre, c'est l'idée qu'il faut accepter une histoire racontée par un vieil oncle, je dis vieux, il n'est pas tellement vieux,
non, hein, soixantaine.
Mais lui-même parle de lui comme ça. Donc c'est un vieil oncle qui vous raconte sa vie, et puis vous êtes dans un fauteuil crapaud, là vous avez un plaid sur les genoux, et puis parfois c'est très ennuyeux, et puis parfois c'est merveilleux. Moi, je dois dire que les Vosges...
Enfin, la partie romanesque est très, très relative, quand même. Hein.
C'est... Alors, moi, je ne sais pas, je ne le connais pas du tout.
C'est un récit de
souvenirs. Benoît, oncle Benoît, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux.
Moi, je connais un peu, je pense que tout est vrai, oui.
Alors, oncle Benoît, j'ai adoré, moi, son oncle, parce que la première partie...
L'oncle de l'oncle, donc.
Exactement, j'aime l'oncle de l'oncle. Merci, Frédéric.
Le résistant.
L'oncle Albert et la tante Rosemonde sont vraiment des personnages très attachants, très touchants.
Et c'est les Vosges.
Ça, c'est dans les Vosges. Dans toute l'enfance et le conflit de loyauté de ce petit garçon qui vit la liberté pendant 3 mois de grandes vacances à l'époque, et à qui un jour on demande « Mais est-ce que tu préfères ta tante Rosemonde ou ta mère qui, elle, fait des enfants à la chaîne en une très grande catholique ?» Et je trouve que c'est très beau. En fait, moi, j'aime quand oncle Benoît fend l'armure. J'aime quand tout d'un coup, il y a un paragraphe sur son amour pour Jean-Sébastien et il se dépeint, serré contre lui, et ils sont tellement heureux que finalement, il pourrait mourir. J'aime le gars qui est drôle. Il est drôle quand il raconte comment il perd sans arrêt ses clés, alors que ça a l'air d'être un maniaque de l'ordre. Entre nous, je ne sais pas comment on peut à ce point perdre ses clés, alors qu'il raconte que son bureau, c'est un bureau de fonctionnaire avec chaque chose à sa place.
Et qu'il a déjà pensé à ordonner et léguer ses archives à la bibliothèque du Havre. Hein.
Voilà, Oncle Benoît, très, très pouvez-vous m'expliquer comment vous perdez vos clés? J'aime cet homme qui va faire ses courses avec son caddie et acheter des endives au jambon. J'aime tout ce côté familier. Et puis après... Alors, c'est beaucoup plus véhément que Dominique Fernandez, hein, parce que lui, il a un discours extrêmement violent, je trouve, sur les homosexuels qui veulent s'embrasser.
C'est la fin du livre. Hein.
Voilà, qui veulent finalement s'embrasser sur le perron de la mairie et jouer à papa-maman. Oui. Là, il devient, bon, je le perds un peu, mais un homme qui est ami avec Sempé...
Il a le droit d'écrire ça.
Il a tous les droits.
C'est plus qu'ami avec Sempé, il skie avec Sempé,
et il va au bord de la mer avec Kundera.
C'est quand même très chic. Hein.
Oncle Benoît, vraiment, j'ai de l'affection.
Jean-Louis, alors, je te pose la question, mais bon, il est normalement de l'autre côté de l'eau, donc oui, c'est pas vraiment ton...
Oui, déjà.
C'est pas ton
pays. Il y a eu un malentendu entre nous, je me rappelle de son livre sur les vaches, qui a eu une réédition, et j'ai cru que c'était un mec dans mon genre au départ.
Mais c'était des vaches vosgiennes, hein, surtout. Hein, c'était des vaches vosgiennes et pas normandes.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, une vache étant toujours une vache. Là, je dirais, écoute...
Tu es toujours parrain d'une vache, toi?
Oui, toujours, oui. Ouais.
Alivaro,
oui, j'en ai même plusieurs, j'ai plusieurs filleules.
Alivaro?
Oui, Alivaro, autour de Alivaro et de Lisieux.
D'accord.
Écoute, si la vanité était une discipline olympique, je pense que Benoît Duterte serait médaille d'or. Mais sans problème. Cet homme-là, pour se situer dans la littérature contemporaine, il vous accable de détails qui sont des détails vrais, parce que je pense comme vous qu'il ne se vante jamais et que tout est vrai. Il a donc reçu un jour une carte postale de Guy Debord, une autre de Milan Kundera. Beckett lui a envoyé un mot. Houellebecq, il l'appelle Michel, à un moment, dans le... très bien. Non seulement ça, mais il a eu un papier de Frédéric Bedbédé dans le Figaroscope, et
il a été lancé dans la carrière
par qui? Jérôme Garcin. Alors là, c'est incroyable.
Mais comme c'est vrai, c'est pas vaniteux.
C'est une réussite
totale.
Mais écrire
des phrases comme j'avais le sentiment de contribuer au changement de cap du roman français. Alors, moi, en tant que contributeur modeste au Chasse-Marée, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est qu'un changement de cap, mais ça veut dire quand même qu'il a embarqué tout le monde dans une direction différente. C'est-à-dire qu'il y a un avant du Tertre et un après du Tertre, quand même. Là, il va même jusqu'à détailler les chiffres de vente de ces...
Oui, tout en rêvant du grand succès qu'il n'a pas eu.
Mais
oui.
Je trouve que c'est honnête de dire ça.
Il m'a fait penser à un mot d'art. Eh bien, il a du talent, ce gars. Mais c'est la façon dont il en use qui ne va pas. C'est-à-dire, Alphonse Allais disait, il ne suffit pas d'avoir du talent, encore faut-il savoir s'en servir. C'est l'impression que j'ai eue, un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre de se faire mal aimer, de se faire détester. Je vois bien, il n'en a rien à foutre de ma sympathie. Je l'ai ressenti tout le temps.
Tu es absent du livre, malheureusement.
Et je suis complètement absent, alors que moi aussi, j'ai écrit sur les vaches.
Mais avec un peu de chance, tu seras dans le prochain, là, après ta petite tirade.
Michel,
c'est l'auteur le moins romantique qui soit, en fait.
Ah oui, ah, c'est vrai.
C'est le pari d'arriver à tirer le lecteur, à faire en sorte que le lecteur reste avec toi, reste avec ton livre, alors même que tu lui racontes quelque chose qui n'a pas grand intérêt, véritablement. Je n'ai pas souvenir dans ce livre d'avoir éprouvé un grand moment de lecture. Dans un bon livre, il y a toujours un grand moment.
Oh, t'es dur.
Parce que c'est un cadenassé.
Laissez terminer, Michel.
C'est un homme cadenassé, mais tout d'un coup,
aucune conclusion particulière, mais ça m'a quand même assez sidéré de voir que du Tertre était capable de ne pas déroger à ce principe de banalité, de non-romantisme absolu.
Il y a un très grand moment qui est quand même la disparition d'une chaussette sur deux dans les machines à laver.
Frédéric Becbédé, tu ne fais pas la machine. Si,
s'il vous plaît, Frédéric Becbédé, il y a 15 jours, a fait un papier très élogieux sur ce livre, dans le Figaro Magazine. Il sera donc dans le prochain livre, j'imagine.
Dans le prochain livre de Benoît, sûrement, oui. Vous n'avez rien compris, parce que tout est expliqué dans le titre. Ma vie extraordinaire est un titre ironique, et donc s'il raconte une vie banale, c'est précisément pour voir dans la banalité, au fond de ce que tu trouves n'a pas grand intérêt, de chercher les pépites. Et les pépites, c'est cette enfance chez son grand-oncle résistant, le contraste entre le courage de cet homme pendant la guerre et une vie vosgienne, très calme, très champêtre. Et puis ensuite c'est aussi l'histoire d'un type qui se retourne sur son passé, qui s'aperçoit, zut, j'ai 60 ans déjà, et il y a une partie du livre qui s'appelle 14 600 jours, où il essaie de se demander qu'est-ce qui a bien pu lui arriver entre 20 et 60 ans. Et je trouve que ça, c'est
pas
fascinant.
Parce
que c'est un truc sur ma génération. J'ai pas encore son âge, mais... ça ne saurait tarder. Et au fond, on se dit, on a grandi dans un monde en paix.
Ne fais pas croire chaque fois que tu es jeune.
c'est ce que je dis. Et donc, si tu veux, il arrive à fusionner un récit de vie sans guerre, sans grave malheur.
Il ne triche pas avec ça.
Il fusionne ça avec ce qu'il adore le plus au monde, c'est écrire des petits essais ronchons sur la bêtise du progrès.
Oui.
Et ça, il arrive à faire tout ça en un seul livre, ce qui est quand même un exploit. Je trouve assez fort, quoi. Et vous parlez pas de la partie science-fiction, mais à la fin, on est en 2070. Les Vosges sont devenus un parc d'attractions.
Oui, c'est très bref, hein.
Un livre qui est sur 130 années, de 1940 à 2070. C'est pas banal.
Et tu n'as pas ressenti le mépris pour le lecteur cultivé quand, par exemple, il dit, j'avais découvert Que ma joie demeure. Et là, il précise un roman. Un roman de Jean Giono. C'est-à-dire, il me semble que s'il s'adresse à des lecteurs un peu, tu vois, d'un certain niveau, il va dire le roman de...
Ma vie extraordinaire, c'est signé Benoît Dutertre et c'est chez Gallimard. L'homme de Césarée chez Albin Michel, c'est après Les Enfants d'Alexandrie et Les Dames de Rome, le troisième volume de la saga de François Chandernagor consacrée à la princesse Sélénée. Je rappelle que c'est la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, exilée d'Égypte, élevée à Rome. Et en l'an 19 avant Jésus-Christ, que Michel a connu, elle devient, sur l'ordre de l'empereur Auguste, la femme du roi de Maurétanie, le beau Juba II, n'est-ce pas, Michel, qui règne sur un immense pays constitué aujourd'hui de l'Algérie et du Maroc. Et c'est à Césarée, pour être tout à fait précis, c'est l'actuelle Cherchel, c'est-à-dire en Algérie, près de...
C'est pas la Césarée de Racine et d'Aragon.
C'est à Césarée, faubourg de Cherchel.
C'est à Césarée qu'ils vont donc fonder une dynastie, construire des monuments pharaoniques et préserver la souveraineté de la Maurétanie au sein de l'Empire romain. Je vous précise qu'il reste à François Chandernagor à écrire un quatrième et dernier volume qui sera donc pour le Masque et la Plume de l'an 2022. L'homme de Césarée, Michel, qui connaît bien cette époque.
Oui, admirablement. Comment dire c'est là où tu t'aperçois que...
La vie est courte.
Que non seulement la vie est courte, mais que...
L'histoire est longue.
Que la grande histoire avec un H, avec des empereurs, avec des éléphants...
Non, empereur, c'est sans H. Hein.
Oui, avec des toutes sortes de choses extraordinaires. Tout ça, en fait, n'est rien d'autre qu'une histoire de famille. L'histoire, c'est une histoire de famille, et ce n'est que ça. Alors... Nous, aujourd'hui, on est dans un monde où les familles sont des résidus d'une histoire qui est achevée depuis très longtemps. Là, François Chandernagor réussit, je trouve, cet exploit incroyable d'arriver d'abord à comprendre quelque chose à cette histoire qui est d'une complexité effarante. Et elle réussit à retrouver la courroie de transmission, le fil qui permet de revenir à l'air libre après un séjour dans cet univers complètement fou où les gens s'entretuent sans arrêt. Enfin, l'histoire de l'Antiquité romaine est quelque chose d'une violence inouïe et dont on n'a pas idée.
Et alors, enfin là, l'histoire de ce couple, c'est pas très violent. C'est peut-être un des volumes les plus calmes, d'ailleurs, de la saga.
C'est pas le souvenir que j'avais gardé. Et en tout cas, c'est ce qui m'a frappé là, vraiment à la lecture, c'est cette espèce d'aisance qu'elle a, d'ailleurs, Chandernagor, à faire les connexions, à reconstituer les clashs, le père qui épouse sa fille, enfin des choses absolument incroyables. Et la seule chose qui manque, à mon avis, à ce livre, c'est de faire sentir au lecteur le temps disparu, le lointain. Quand on écrit des romans qui se passent au temps de Napoléon voire même un peu plus loin, il n'y a aucun problème, on est dans la même séquence historique. Là, c'est un autre monde et je trouve qu'elle le connaît admirablement, elle le montre, elle le décrit très bien. Mais il n'y a pas cette espèce de grain du temps, du vide du temps.
Ça me rappelle ce mot magnifique de Georges Perros quand il était lecteur pour le TNP de Villard. Donc il lisait les pièces, les traductions. Il avait lu une traduction absolument remarquable de La Tempête. Il disait, il n'y a pas un mot de trop, c'est parfait, la traduction est idéale. Il manque juste une chose, le vent. Je trouvais ça formidable. Frédéric.
Bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre de roman historique.
Ah bon, c'est l'aîné, c'est pas ton univers.
Donc, je me suis forcé pour faire plaisir à Jérôme. En plus, c'est le tome 3 d'une saga dont j'ai pas lu les deux premiers tomes, donc c'est pas évident.
Mais t'as un glossaire pour t'aider à la fin.
Oui, je dirais que c'est moins bien que Salammbô, mais c'est mieux que Christian Jacques.
Ou bien c'est moins bien que
Cécile Saint-Laurent, mais mieux que Max Gallo. Non, la fille est plutôt sexy. C'est une sorte d'angélique marquise des anges. C'est l'aînée. On la force à se marier avec un berbère viril. Finalement,
qui est très beau. Alors,
oui, elle est très très beau.
Juba 2.
Juba, c'est un couple de péplum. C'est l'aînée.
Tout à fait.
Juba,
tu vois, ça pourrait être Cécile B2000.
Et finalement, alors elle finit par le désirer. Ouais. Mais lui, il veut pas coucher avec sa femme. Il trouve que coucher avec sa femme, c'est dégoûtant. J'ai trouvé ça assez marrant. Mais non, c'est pas du tout. Enfin voilà, pour moi c'est un peu du roman de gare. Et ce que je trouve bizarre, c'est que avec toute la connaissance historique de François Chandernagor, finalement les personnages n'ont pas beaucoup d'épaisseur. Les monuments, oui. Les lieux archéologiques, oui. Mais pas les personnages.
C'est pas évident non plus. C'est pas évident de les imaginer. Mais... Olivia.
Ah, mais moi je suis pas d'accord parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Et j'adore. Moi j'ai adoré. Moi, j'ai l'impression de voir un film ou de voir Game of Thrones, plus Succession, plus Thérapie. D'abord parce que je trouve que, contrairement aux auteurs que tu as cités, Frédéric, elle a une sorte de gourmandise pour raconter son histoire.
Absolument.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle est tombée amoureuse de Juba. Elle l'adore. Il est beau.
Ça se voit.
En plus, il est très
criant.
Il est très, c'est un intellectuel, c'est un artiste.
Mais Juba 2, on dirait un nom de voiture un peu, quand même.
Oui, mais ça, il peut rien. Excusez-moi.
4x4 ou un SUV.
Elle n'est plus fournie.
Excuse-moi, ça ne se passe pas grand-chose quand même.
Ah bah tu rigoles.
Attends, celui-là, c'est moins que dans les autres.
C'est un petit peu moins dans les autres. Moi, je trouve qu'il y a l'histoire d'abord de cette fille et ce qui est beau, et là on retrouve la François Chandernagor de La Chambre, qui est un de mes livres fétiches, cette fille de Cléopâtre, elle a une dame pour lui porter son éventail, une dame pour lui masser les pieds, l'autre pour lui masser la tête, elle a tout, mais c'est une petite fille effrayée qui déteste le noir, et la nuit de noces est formidable. Et c'est comment cette petite fille, effrayée par les horreurs qui se sont passées dans sa famille, va devenir une femme qui va construire et va être à la tête de très grands chantiers, et une femme, je trouve, très intéressante. Et après, le reste, moi, c'est le parrain. Et elle le dit d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Elle dit finalement, Auguste, c'est Don Corleone. Oui, et c'est absolument. Une famille où on arrache les absolument. Enfants aux femmes pour les donner à leur père. Donc, leurs enfants deviennent leurs frères. On répudie des malheureuses qu'on va faire épouser des gens alors qu'elles sont enceintes. C'est pas grave, on va prendre les bébés. Enfin, c'est une sorte de famille monstrueuse. Oui. Dont elle dit que dans deux générations, ils seront quand même tous fous.
Oui, oui. Moi, Jean-Louis, je crois qu'on évoque un dernier livre après, c'est pour ça, Jean-Louis.
D'accord avec Olivia sur l'humour. D'ailleurs, j'ai noté, il y a des scènes de bataille avec des éléphants, et elle explique que l'éléphant est le blindé de l'époque. Ce qui a d'ailleurs deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que c'est un blindé émotif, et le deuxième, c'est qu'il ne distingue pas ses amis de ses ennemis. Donc, il y a des scènes d'état-major après sur la confusion des batailles, qui est assez drôle. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que cette évocation, là, par exemple, elle figure dans un récit que Juba II fait à sa princesse, enfin à sa nouvelle femme, de sa vie d'avant. C'est-à-dire que là, on est quand même à la limite de l'anachronisme, quoi. Mais c'est pour répondre à ce que tu disais, Michel, sur cet anéantissement du temps. C'est vrai, je crois que c'est complètement délibéré, puisque je pense que Juba II n'a pas pu dire à ses aînés « Tu vois, l'éléphant, c'est le blindé de demain. » Je pense pas. Mais elle s'en fout, Chandernagor. Elle a raison,
oui,
sans
et puis
doute.
Elle est trop gourmande de tout ça. Elle s'en fout. Quand tout le monde s'en va et qu'on est crevé et qu'on veut passer à autre chose, elle reste et elle a encore des dizaines de trucs à raconter.
Oui. C'est vraiment... Il y a des choses étonnantes. Il y a même des esclaves qui chantent des paillardes sur le long du cortège royal. Enfin, c'est très cru, des mots que je n'oserais même pas répéter.
C'est l'homme de Césarée, c'est chez Albin Michel et c'est donc le troisième volume de la saga de François Chandernagor. On n'a pas beaucoup de temps pour évoquer, c'est dommage, Le Parc à Chiens, traduit chez Stock par Sébastien Cagnoli, le nouveau roman de la Finlandaise prodige Sophie Oksanen, à qui on doit notamment Purge, prix féminin étranger, Les Vaches de Staline et Norma. La scène d'ouverture se passe dans un jardin public d'Helsinki. En 2016, Olenka est assise sur un banc et une femme, sa soi-disant amie, dont Olenka a autrefois ruiné la vie, vient s'asseoir à ses côtés. Un roman, comme souvent chez Oksanen, où le passé s'impose dans le présent et où alterne ici la Finlande d'aujourd'hui et l'Ukraine au moment de la transition post-soviétique. L'Ukraine où Olenka dirigeait, et on comprendra tout, une agence proposant à des couples aisés la PMA, la procréation médicalement assistée. Je vous demande donc malheureusement de me dire très vite ce que vous en pensez. Commence par le nordique, Jean-Louis, qui sait tout de la littérature de...
C'est un thriller nordique, donc très noir et... C'est difficile à supporter dans une époque déjà ténébreuse. Enfin bref. Écoute, pour te résumer, puisqu'il faut aller vite, ça commence par un entretien d'embauche. Et j'ai eu le sentiment moi-même de subir un entretien d'embauche en tant que lecteur. Et finalement, je n'ai pas été retenu.
Mais petite parenthèse, tu avais lu les romans précédents d'Oksanen ?
Non. Ah oui, d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était formidable d'obtenir un prix littéraire avec un roman intitulé « Purge ». J'ai trouvé ça remarquable.
Courageux de la part
du jury.
Sur
un plan strictement sportif.
Olivia.
Oh bah Purge, c'était éblouissant.
Éblouissant, oui.
Là, certaines pages, les bonnes,
c'est
font
assez glauque,
penser
hein.
à du Margaret Atwood sur l'exploitation du corps de la femme, comment l'Europe de l'Est, enfin comment l'Est de l'Europe est devenue une sorte de fabrique de bébés, avec des filles qui sont belles, qui sont diplômées, qui sont douées et qui deviennent des donneuses d'ovocytes. Pour des couples riches qui veulent des enfants parfaits.
C'est le fond du roman. Voilà. Hein.
Oui, c'est
je
le
trouve
fond.
Que le sujet est très
le
intéressant.
C'est le fond du roman.
Après, je trouve que le traitement n'est pas tout à fait à la hauteur, parce qu'on passe de Margaret Atwood à une sorte de film de Luc Besson, moi je trouve, avec une super-héroïne. Et c'est d'une noirceur qu'on n'a pas forcément envie d'affronter en séjour de déprime.
Oui, c'est vrai qu'on a commencé avec Billy Wilder et on finit avec Luc Besson, ce qui est quand même le grand écart. Frédéric.
Alors, il s'est, paraît-il, la reine du thriller féministe. Et je trouve ce concept totalement absurde. Alors pour moi, franchement, soit tu as écrit des polars, des thrillers. Pourquoi les thrillers devraient être féministes?
Le mâle blanc va avoir une réaction.
Non, en même temps, pourquoi pas?
Oui, 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 d'accord. Mais alors, ça veut dire qu'on limite d'entrée de jeu le propos. Mais c'est pas, c'est quand même.
Attendez, excusez-moi, le terme féministe ne limite aucun propos. Permettez-moi.
Non, mais tu vois, qu'est-ce que ça veut dire un thriller féministe?
Cher Frédéric,
ça veut dire un thriller féministe. Ça veut dire quoi? Que le meurtrier est un méchant mec? Qu'est-ce que ça n'a pas de sens pour moi.
Non, ça veut dire que ça dénonce la condition de certaines femmes aujourd'hui.
Mais alors à ce moment-là, c'est plutôt bien fait. Parce que, notamment, moi qui connais bien la Russie et l'Ukraine, je trouve que c'est tout à fait juste.
Tu as fait un livre et un film.
Oui, je trouve que c'est très juste sur ça, c'est-à-dire sur le rêve, notamment des Ukrainiennes de l'Est, russophones, est bien montré. C'est un rêve très matérialiste de mariage avec un type friqué et tout ça. Et on voit que c'est plus du tout le même rêve que celui des occidentales. Plus du tout. C'est l'exploitation de cette différence entre les femmes. Mais c'est pas un thriller féministe à ce moment-là. C'est un thriller qui analyse justement le problème de la condition féminine et le désarroi de certaines femmes par rapport à d'autres sur notre planète.
Exactement, qui sont exploitées.
Michel.
Excusez-moi, ça m'a barbé à un point inimaginable.
Mais je trouve très dur avec cette romancière qui a jusqu'à maintenant quand même montré qu'elle a été quand même... plus que doué, non?
Je trouve que vraiment, enfin, c'est un sujet, ce livre. C'est ça qui est terrible. C'est un sujet. Alors, voilà. Le sujet.
On parlait des romans Netflix, c'est un feuilleton du masque.
Oui, voilà. Ouais.
Un sujet traité aussi, avec beaucoup de rebondissements, de personnages. Et puis avec une
perspective historique que vous avez l'air de négliger.
Je
n'ai pas eu la patience de ces 400 pages. Qui effectivement me parle du monde contemporain, de la marchandisation généralisée de tout. Oui, bien sûr, tout ça est extrêmement important, mais tu t'en fous.
Mais oh là, je m'en fous. Arrêté au milieu.
Comme lecteur, je m'en tape complètement.
Non, mais c'est bien qu'on est sélénés de Chandernagor, mais c'est bien aussi d'avoir Roxanen,
oui,
si tu vois ce que je veux dire.
Oui,
très bien, mais je préfère Chandernagor.
Bon, eh bien, écoutez, vous êtes bien sévère avec le parc à chiens. C'est chez Stock et c'est signé Sophie Oxanen. Et lisez, ou si vous ne l'avez pas lu, Purge, qui était un très grand...
Très grand livre.
Roman très noir, mais très grand roman.
Oui, très
bien. Le temps est venu des conseils. On va commencer avec Olivia, bien sûr.
Alors, un petit livre, après tous ces livres très volumineux, Jeunesse de Pierre Nora. Ce sont les mémoires de l'historien, mais ce que j'ai adoré, c'est que ce sont des mémoires extrêmement intimes, oui. Dans lesquelles il raconte ses années d'enfance et celles de ce petit garçon juif qui saute par la fenêtre d'un pensionnat à la demande du directeur qui lui sauve la vie. C'est le portrait d'une famille.
Pour échapper à la Gestapo qui était en train d'entrer dans le pensionnat.
Je trouve que c'est le portrait d'une famille, alors qui est évidemment illuminée par l'ombre du grand homme qui était son père, mais avec des portraits de femmes, moi, que j'ai adorées. Sa mère qui, pendant la guerre, recueille tout le monde avec cette formule que j'adore, quand il n'y en a pas pour 5, il n'y en a pas pour 6. Sa sœur, dont il dit que c'est la plus intelligente de la famille, avec un portrait tout en mélancolie.
Sa sœur qui a épousé l'historien Furet,
absolument,
François
qui est devenu son beau-frère. Et puis ses amours, son amour pour une princesse malgache,
Marthe.
Amour extrêmement romanesque, qui va sans doute lui valoir 3 échecs à l'entrée de l'école normale sup. Je trouve que c'est un livre d'un homme merveilleux, extrêmement sensible. Et surtout un livre extrêmement inattendu.
Je te reprends juste sur un mot. Pour moi, ce ne sont pas des mémoires, justement. C'est pas les mémoires qu'il avait un peu promis, je crois, à Antoine Gallimard. C'est plutôt des portraits des gens qu'il a aimés.
Exactement.
Les siens, mais aussi les femmes.
D'ailleurs, les chapitres ne sont même
absolument
pas numérotés. Ce sont des fragments.
C'est des fragments.
Des fragments d'une vie.
Et ça, c'est d'autant plus touchant que c'est précisément pas le. Il n'y a pas l'ambition de faire une grande autobiographie.
Ça ne pose pas du tout.
Ah non, voilà. Surtout, c'est un homme qui raconte avec délectation comment il a tout raté.
C'est absolument.
C'est très, très beau.
Oui, et qu'il est même rentré à l'Académie française par modestie.
Exactement. Lisez-le, c'est
Jeunesse,
merveilleux.
C'est merveilleux, c'est signé Pierre Nora et c'est chez Gallimard. Le conseil de Jean-Louis.
Oui, alors peut-être un livre, un roman arrangé aux côtés de celui de Jonathan Coe sur Billy Wilder. Parce que c'est un roman sur aussi le crépuscule d'une star. Ça s'appelle Laura Antonelli n'existe plus, par Philippe Brunel, aux éditions Grasset. Et cette Laura Antonelli était une actrice fabuleuse qui a eu une fin de vie absolument catastrophique.
Je t'ai jamais connu aussi cinéphile.
Ah oui, là, je suis, ben là, j'étais, tu vois, embarqué par Co, j'ai continué sur ma lancée. Et Visconti disait de Laura Antonelli que c'était la plus belle femme du monde, mais elle a vraiment très mal fini. C'est un roman magnifiquement écrit. Philippe Brunel est un styliste. Et puis, en plus, c'est un très grand connaisseur de l'Italie. Donc, il y a une ambiance magnifique qui montre bien comment, comme disait Visconti, la gloire est l'autre face du crépuscule.
Et c'est chez Grasset, hein?
C'est chez Grasset,
le titre,
voilà. Laura Antonelli n'existe plus.
Mon conseil, je vais être rapide, c'est l'un de ces très brefs et toujours laconiques polars que j'adore, dont Yves Ravet a le secret. Là, c'est Adultère, c'est chez Minuit, où le propriétaire d'une station-service au bord du dépôt de bilan, dont la femme avait une liaison avec le mécanicien, assassine ce dernier, mais il n'éprouve d'ailleurs ni la satisfaction de s'être vengé, ni la culpabilité d'avoir tué. C'est du Ravet, mais du Ravet pur jus noir, à l'image de tous ses romans précédents. Lisez Adultère chez Minuit, mais lisez les autres petits polars de cet écrivain. Frédéric.
Pour compléter Dominique Fernandez et Benoît Dutertre, on ne peut pas ne pas signaler le monument qu'est le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui.
Que je n'ai pas inscrit au masque parce que c'est 2500 pages, ou 3000 pages.
2300 pages, oui. Oui, mais justement, je trouve que... Arthur Dreyfus est très mal accueilli, très injustement décrié, snobé par une grande partie de la presse. Et finalement, le seul qui en a dit du bien, c'est Marc Lambron de l'Académie française dans Le Point. Et tu te dis, c'est bizarre, parce que finalement, le libertarisme est en train de devenir de droite. Ce que fait Arthur Dreyfus, c'est exactement la suite de Guillaume Dustan chez le même éditeur POL.
Ce qu'avait fait Renaud Camus avec Trix.
Oui, et qui, POL qui réédite d'ailleurs Nicolas Page et Elixir de Guillaume Dustan. Donc il y a, voilà, c'est un mouvement littéraire, on ne peut pas l'ignorer. Et ces 2300 pages, il y a des scories, mais il y a aussi des fulgurances. Par exemple, cette définition de l'amour, une histoire qui commence par « je t'aime, moi aussi » et qui se termine par « je pleure, moi aussi ».
Enfin, je précise qu'il y a des passages plus hard que ceux que tu viens de lire. Michel.
Alors, bon, pour aller à la plage, hein, une nouvelle traduction.
Il est complètement hors temps. Il se prend au mois de juillet à la boule.
Bah oui, sors dehors, tu verras, c'est exactement ça. Et donc.
Pas de confinement, non, rien.
Je peux dire mon choix. L'Odyssée, hein, par un certain Homère. Et
c'est une nouveauté.
Une traduction d'Emmanuel Lascou chez POL. Et c'est une lecture de l'Odyssée très très, je dirais pas ras des pâquerettes, mais très brute, enfin très très rude. Et à mon avis, il a eu raison d'aller dans cette direction parce que c'est comme ça qu'on retrouve le vent, justement.
Donc ton conseil, c'est Homer, hein, si je comprends bien.
Ça vient de sortir.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Jean-Louis Hézine, Michel Crépu, Frédéric Becbédé, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Valérie Lavalard ainsi que Valentin Hazan pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma à dimanche prochain sur France Inter évidemment.